1079.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 20 décembre. Bonjour Anaïs Fega.
Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
À la une ce matin, épuisés par 2 ans de lutte contre le Covid, les soignants sont encore sollicités dans cette période de fête avec une situation plus tendue qu'au printemps 2020. Les autres titres.
Boris Johnson plus que jamais affaibli en Angleterre. Nouvelle photo gênante publiée dans la presse. Une première à Paris, une maison des coursiers pour permettre aux livreurs de trouver refuge dans leur journée de travail. Et puis Molière, beau livre illustré pour célébrer les 400 ans de sa naissance.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra Bensaïd.
C'est le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël, qui s'apprête à vivre un des lancements les plus importants de l'histoire des fusées Ariane, celui du télescope James Webb, 100 fois plus puissant que Hubble, la promesse de révolutionner nos connaissances sur l'origine de l'univers. On en parle à 7h50.
Et à 8h20, la menace du variant Omicron, le pass vaccinal, la vaccination des enfants. Question au monsieur vaccin du gouvernement Alain Fischer. Vous posez les vôtres dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter.
Les hôpitaux devant un immense défi en ce début de vacances de fin d'année. Près de 3000 patients Covid en soins intensifs et avec les bronchiolites et autres virus divers, il faut trouver des ressources. Or, la situation est plus tendue qu'au printemps 2020, disent les établissements. Comment donc gérer cette quinzaine qui arrive ? Illustration Véronique Julia avec le groupe hospitalier Nord-Essonne.
Une trentaine de patients Covid hospitalisés ici, c'est 4 fois moins que durant la première vague. Sauf que cette fois, il n'y a plus de renfort. On est en hiver, époque propice à tout un tas d'infections. Il y a beaucoup d'autres pathologies à traiter et chez les soignants, le ressort est cassé. Arrêt pour épuisement ou enfant malade, il manque 60 à 70 infirmiers et aides-soignants par rapport à la même époque, il y a 2 ans. Pour tenir, on ferme des lits et on déprogramme des interventions. Cédric Lucier est le directeur général du groupe hospitalier.
Pour les 15 jours des fêtes à venir, on est autour de 60 à 70% de déprogrammation. Donc on ne garde vraiment que des actes essentiels.
On fait des heures supplémentaires aussi pour combler les absences.
En ce moment, le nombre moyen d'heures supplémentaires des effectifs soignants de jour est au moins de 6 à 7 heures par semaine.
Même si le plan blanc l'y autorise, Cédric Lucier ne veut pas priver les équipes de leurs vacances de Noël. Elles ne le supporteraient pas, dit-il. Il a donc accordé les congés et mise plutôt sur les bonnes volontés.
Très concrètement, sur une des unités de réanimation, il y a eu un arrêt inopiné hier. Il y a quelqu'un qui a accepté de reporter à nouveau ses congés, pouvoir être présent pendant 2 jours entre Noël et les jours de l'an. C'est une histoire comme il en existe des dizaines tous les jours, sans lesquelles on ne tiendrait pas.
On vit au jour le jour, explique le directeur. Il n'imagine pas d'accalmie dans les prochains mois, mais anticipe plutôt la 6e vague avec le variant Omicron.
Concernant la vaccination des enfants, le gouvernement attend l'avis à 14h de la Haute Autorité de Santé quant à la possibilité d'étendre le pass au monde du travail. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs semble vouloir dire le porte-parole du gouvernement. Il y a une hypothèse, une possibilité d'extension du pass au lieu de travail, mais ce n'est pas aujourd'hui dans notre scénario, a dit hier soir Gabriel Attal. La ministre du Travail consulte tout de même les partenaires sociaux ce matin à 11h. Delphine Simon.
Certains salariés sont déjà obligés de présenter un pass sanitaire pour aller travailler dans la restauration, le spectacle ou les cinémas. Mais rendre ce pass obligatoire dans tous les secteurs, cela paraît difficilement applicable pour Michel Bogas de Force Ouvrière.
Qui va contrôler ? Est-ce que c'est aux entreprises de le faire ? Quid de ces salariés qui refusent ? Qu'on dise les choses ? Dans ces cas-là, on rend obligatoire la vaccination.
Les syndicats auraient préféré des mesures plus incitatives, un allongement du temps de télétravail ou un plus grand accès à la vaccination en entreprise. D'autant qu'il n'y a pas urgence, calcule François Omril, le président de la CFE-CGC. Le temps que la mesure soit adoptée par le Parlement, le pass obligatoire ne sera pas mis en œuvre avant le mois de mars.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement nous oublie un peu. Voilà, l'imposition du pass sanitaire obligatoire en entreprise. Moi, je suis dubitatif sur l'effectivité de la mesure, sur ce que cela fait peser sur les entreprises qui n'est pas de leur ressort d'activité. Ça me paraît sans lien avec ce qui a été déployé depuis 18 mois.
Si le ministre du Travail renvoie à la concertation, son collègue de la Santé semble lui avoir déjà acté la présence de la disposition dans le projet de loi examiné en janvier.
Et notez que la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, positive au Covid, est à l'isolement. Outre-Rhin, les experts demandent des mesures urgentes. Omicron fait entrer la pandémie dans une nouvelle dimension, disent-ils, car il infecte beaucoup plus de personnes en très peu de temps et touche davantage les personnes guéries et vaccinées. Réunion demain du chancelier et des Länders. Qu'en est-il dans les autres pays d'Europe ? Tour d'horizon avec notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bois.
Aux Pays-Bas, les magasins non essentiels ont baissé leurs rideaux samedi soir, ainsi que les bars, restaurants, théâtres, musées. Les écoles l'avaient fermé prématurément vendredi pour 3 semaines et l'on ne peut inviter à dîner chez soi que 2 personnes, 4 à Noël et au Nouvel An. Confinement également en Slovaquie, sauf pour ceux qui sont vaccinés, mais c'est moins de la moitié de la population. Tandis qu'au Danemark, qui affiche pour le coup un fort taux de vaccination mais qui séquence beaucoup et qui observe donc l'arrivée fulgurante d'Omicron, le gouvernement a annoncé la fermeture des musées et théâtres pour les fêtes, le retour des jauges dans les magasins et restaurants où l'on ne servira plus d'alcool après 22h et qui devront renvoyer leurs clients à 23. 23h, c'est déjà l'heure de fermeture imposée en Belgique où l'on ne retournera pas à l'école avant le 9 janvier. En Irlande, où l'on compare ces mesures à un couvre-feu, la vie sociale, elle s'arrête désormais dès 20h dans la restauration. L'Irlande, qui pour se protéger, a décidé, comme l'Italie, le Portugal et la Grèce, d'imposer à ses frontières un test PCR à tous les voyageurs, y compris européens et même s'ils sont vaccinés. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Et retrouvez les mesures sanitaires de nos voisins européens sur franceinter.fr.
La révolution des urnes au Chili et les rues en fête à Santiago jusqu'au bout de la nuit.
Le pays le plus inégalitaire de l'OCDE, laboratoire du libéralisme en Amérique latine, choisit l'État-providence avec le triomphe cette nuit de Gabriel Boric, l'ancien leader étudiant, 35 ans, élu président de la République sur la promesse de rompre avec ce modèle néolibéral. 56% des voix contre son adversaire, José Antonio Cast, défenseur de Pinochet. Nous serons au Chili à 7h30. Lui, en revanche, traverse une mauvaise passe. Boris Johnson, au Royaume-Uni, à nouveau embarrassé par une photo publiée dans le Guardian. On le voit avec ses collaborateurs dans le jardin de Downing Street en mai 2020, en plein confinement. Richard Place.
Il fait beau et, en jugé par la tenue des participants, la température est douce. Boris Johnson est assis à côté de sa future épouse. Devant eux, du vin rouge et du fromage. Une quinzaine de collaborateurs apparaissent également sur cette photo, assis sur la terrasse ou debout dans le jardin. Dès hier soir, un porte-parole du Premier ministre déclarait « Des réunions de travail ont souvent lieu dans le jardin de Downing Street pendant les mois d'été. Cette fois-là, les équipes se sont réunies après une conférence de presse. » Dur à entendre pour la population britannique soumise à un régime bien plus strict à cette époque. Mais c'est surtout l'accumulation qui fait mal. Downing Street a été le théâtre de fêtes pirates l'an dernier au moment de Noël, alors que les rassemblements étaient interdits. Ces fuites viennent forcément de son propre camp, preuve de sa fragilité actuelle. Chez les conservateurs, il ne compte pas que des amis désormais, et certains veulent l'affaiblir, voire le faire tomber. Londres, Richard Place, France Inter.
L'un des plus puissants typhons ayant touché les Philippines laisse derrière lui plus de 200 morts et un carnage complet sur les zones côtières selon la Croix-Rouge. Toits arrachés, arbres déracinés, maisons soufflées, villages inondés, y compris les zones touristiques de Siargao.
L'armée française annonce l'ouverture d'une enquête.
Après la diffusion d'images montrant un 4x4 Vigipirate s'amuser à faire des dérapages dans la boue devant un camp de migrants à Calais avant de s'embourber piteusement, c'est un bénévole qui veut rester anonyme qui a filmé la scène.
Ce 4x4 faisait des allers-retours sur le terrain vague en faisant des dérapages en marche arrière jusqu'au moment où il s'est planté dans le seul endroit un peu marécageux du terrain vague. Et là, les personnes exilées, c'est les premières à venir essayer de pousser, de tirer avec des sangles, d'essayer d'aider, de creuser et autres. Le caractère d'autant plus choquant à nos yeux, c'est que c'est un terrain qui, depuis maintenant un peu plus d'un mois, a été complètement défiguré par la préfecture où ils ont creusé une tranchée et il y a un arrêté préfectoral qui interdit toute distribution d'eau et de nourriture sur ce site. Et nous, on est verbalisés. Et là, il y a un 4x4 de militaires qui fait des drifts au milieu et que les personnes les dorment dans la boue juste à côté. Donc c'était plus ça le caractère révoltant, cette forme de violence aussi institutionnelle quoi, dans cette image et dans cette vision.
Et puis on apprend aujourd'hui qu'un corps a été retrouvé samedi sur une plage de Marque dans le Pas-de-Calais, pas encore identifié. Au moins 4 exilés manquaient à l'appel après le naufrage du 24 novembre. La famille d'un salarié d'Aldi de Fos-sur-Mer a porté plainte après le suicide de cet homme de 47 ans sur son lieu de travail, selon nos confrères de France Bleu Provence. Sa famille et la CGT dénoncent une charge de travail trop importante. Eux viennent de trouver une halte pour se reposer, ceux qui livrent les repas à vélo dans le froid de l'hiver. La toute première maison des coursiers a ouvert il y a 3 mois à Paris, boulevard Barbès. Projet lancé par les élus communistes du 18e arrondissement, géré par les coopératives de livraison à vélo. Un véritable refuge pour ces précaires, Mathilde Humy.
Les grandes portes battantes laissent échapper la chaleur. Moussa et Aboubakar hésitent puis s'installent.
Ici, pour se reposer, parce que dehors il fait froid.
Une pause café, des toilettes, avant de retourner pédaler.
Oui, ça fait du bien, on peut venir se reposer.
on peut prendre du café.
Voilà. Ils travaillent comme coursiers depuis qu'ils sont arrivés en France il y a 2 ans et sont aussi venus pour comprendre leur situation administrative. Circe Liénard, qui coordonne la maison des coursiers, constate une précarisation des livreurs depuis que les plateformes comme Uber ou Deliveroo ont baissé leurs tarifs. Reste désormais beaucoup de sans-papiers.
Ils peuvent souvent avoir soit quelqu'un qui leur prête un compte, soit le plus souvent quelqu'un qui leur loue un compte. Ils n'ont déjà pas forcément énormément de revenus et qu'on leur prend soit un pourcentage, soit 100 ou 150 euros la semaine, ce qui fait que ça ne fait pas beaucoup d'argent pour vivre.
La maison des coursiers les met en lien avec les syndicats du secteur, CLAP, CGT, SUD et CNT. Au début, Circe Liénard pensait pouvoir les aider plus à changer de métier, mais après 3 mois d'expérimentation...
En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les critères administratifs qui sont très compliqué à remplir, il faut vraiment tomber dans la bonne case. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'en tout cas on pensait que ça allait prendre une place beaucoup plus importante, alors que là du coup c'est plus quand c'est possible.
Le bouche à oreille semble fonctionner. La maison rouvrira après les fêtes, 4 jours au lieu de 2 par semaine.
Reportage Mathilde Dehimi. Les affiches des 16e de Coupe de France de football. Le PSG est facile hier face aux amateurs de Feigny-Aulnois 3-0. Joueront en 16e à Vannes en National 2. Le choc sera le classique derby du Nord entre Lens et Lille. Et puis à noter le petit club de l'US Chauvigny en National 3 recevra, lui, l'Olympique de Marseille. Enfin, connaissez-vous votre Molière sur le bout des doigts, celui dont on célèbre l'année prochaine les 400 ans de sa naissance? C'est la case 20 du calendrier de l'Avent du service culture d'Inter, un livre pour enfants pour réviser son incroyable parcours. Et il s'appelle tout simplement Molière, Stéphane Capron.
Ce livre est le cadeau idéal à faire à tous les enfants car ils vont entendre parler de Molière en 2022. Il condense en 60 pages la vie trépidante de Jean-Baptiste Poquelin avec des textes ciselés et des illustrations de Marie Mignot qui a dessiné un Molière bondissant au visage angélique.
Je me suis beaucoup basée sur les portraits de lui, de l'époque. Et ensuite, en fait, pour m'en imprégner, je l'ai dessiné encore et encore. Jusqu'à ce qu'il prenne un peu corps, en fait, justement, comme une écriture.
Quant au texte, Béatrice Fontanelle s'est appuyée sur la biographie de Georges Forestier, le grand spécialiste de Molière.
On a envie de donner aux enfants l'odeur, le bruit, la musique, tout ce côté très sensoriel de Molière, puisque c'est vrai que lui, en plus, il a vraiment touché à tout. C'était à la fois un auteur, un comédien qui travaillait avec ses comédies-ballets, avec Lully. Il écrivait la nuit. Et je pense qu'il s'est tué au travail.
Et Molière, contrairement à la légende, n'est pas mort sur scène, mais de retour chez lui après la 4e représentation du Malade imaginaire, le 17 février 1673. Il avait 51 ans.
On ne se lasse pas, hein, du bourgeois gentilhomme de Lully. Molière, c'est chez Gallimard Jeunesse, 9,90 €, si vous voulez glisser sous le sapin, Jérôme.
Voilà, vous avez le prix en prime.
Ah, c'est ça, le calendrier de l'Avent, c'est des cadeaux qu'on propose.
Bien sûr, il y a moins de 10 €. Voilà. C'est à noter. Merci à vous, Anaïs Feugat, pour ce journal. Dans 3 minutes, nous sommes à Bamako pour le Zoom.